RCF.
Et à 18h10 sur RCF, c'est l'heure des 18-19 en région qu'anime ce soir Alexis Claudretz.
Mardi, on est très heureux de vous retrouver sur RCF Cœur de Champagne, RCF France Ardennes, avec nos habitués évidemment du mardi, Jean-François Boulanger, pour un nouveau numéro de Mémoire Chrétienne. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
On parlera de Chestekova, l'épisode 3, certainement le dernier consacré à la mémoire de la Pologne.
Sans aucun doute.
Avec nos stagiaires à la rédaction, toujours, qui sont là, Inès Elgaloussi, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Et Médina Erich, bonsoir Médina.
Bonsoir Alexis.
On vous retrouvera à l'intérieur du journal régional pour respectivement présenter la météo et parler de la Jeune Chambre économique des Ardennes qui organise une initiative solidaire, une opération propreté demain dans le département. On présentera tout cela à l'intérieur du journal régional de 18h30, mais avant cela, on rencontrera un maire, Bernard Weller, qui est le maire de Villers-Allerand dans la Marne. Nous serons également ce soir avec Edith Danel, membre du conseil des de la mairie de Cézanne, qui encourage les seniors à participer à la vie citoyenne de leur commune. Nous serons avec Hervé Ruinard, le président du syndicat des médecins généralistes de la Marne, et puis on ira faire un tour du côté des jardins de la Fraternité à Châlons-en-Champagne. C'est un projet qui est porté par le diocèse de Châlons dans le cadre de la 21e édition des rendez-vous au jardin. Voilà pour le sommaire de cette émission. 18h12, nous sommes avec Jean-François Boulanger. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Nous avons déjà consacré deux émissions à Chestekova, ce lieu de mémoire catholique polonais. Pourquoi une troisième émission? Parce que ce n'était pas prévu. Il me semble qu'on a terminé la dernière émission en disant « on s'arrête là ».
Oui, c'est ça. C'était le principe de départ. Mais nos auditeurs ont peut-être constaté que la fin de la dernière émission avait été extrêmement rapide, au pas de charge. Et nous avons été donc amenés à parler trop rapidement, effectivement, de ce lieu de pèlerinage. Et c'est un peu dommage parce qu'effectivement, c'est un lieu important. Car, effectivement, si dans un premier temps la Vierge Noire de Chestekova est apparue comme la protectrice de la Pologne lorsqu'elle était menacée, puis dans une autre période comme le lieu de pèlerinage où les pèlerins privés d'État et dispersés entre des dominations étrangères qui ne reconnaissaient pas l'existence de leur nation, domination prussienne, russe et autrichienne, il y a une troisième période que nous n'avons pas assez mise en relief la dernière fois, où il y a de nouveau un État polonais, mais où celui-ci, en fait, est complètement étranger à la signification profonde du site de Chestekova, ce qui est effectivement une nouveauté par rapport aux périodes précédentes.
Deux questions d'un coup pour vous désormais, Jean-François Boulanger. Pourquoi une telle situation et de quelle période précise voulez-vous parler?
Eh bien, on parle de la période qui commence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui voit effectivement la Pologne devenir ce qu'on appelle une démocratie populaire, autrement dit dans un langage plus courant, un pays communiste. Ce pouvoir communiste, effectivement, est la conséquence effectivement de la Deuxième Guerre mondiale. On avait vu l'autre jour que l'une des conséquences de cette Première Guerre mondiale, un des premiers événements de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie à l'ouest et l'URSS stalinienne à l'est. Et on sait qu'en 1941, l'Allemagne avait décidé d'envahir l'URSS, longue guerre, on n'y reviendra pas, mais qui finalement voit l'Allemagne nazie sortir battue de cette guerre qu'elle avait provoquée. Et donc, au lendemain de la guerre, dans le cadre notamment des accords de Yalta, c'est une des conséquences des accords de Yalta, la Pologne retrouve son indépendance, mais dans des frontières très différentes de celles dans l'entre-deux-guerres, puisqu'elle cède à l'URSS des terres qui aujourd'hui appartiennent soit à la Biélorussie, soit à l'Ukraine. C'est en fait toute l'Ukraine occidentale, la région de Lviv, par exemple. Cependant qu'à l'ouest, c'est la ligne Oder-Neisse, du nom des deux fleuves qui la composent, qui devient la frontière occidentale de la Pologne, puisqu'on lui donne à ce moment-là des provinces anciennement allemandes, telles qu'une grande partie de la Prusse, mais pas le nord de la Prusse de l'époque, qui est aujourd'hui une enclave russe, celle de Kaliningrad, mais également la Poméranie et la Silésie. Et cette Pologne, donc théoriquement indépendante, entre en fait dans la sphère d'influence de l'URSS, devient donc ce qu'on appelle une démocratie populaire, dirigée par un parti qui s'appelle le Parti ouvrier unifié polonais. En fait, c'est le Parti communiste. Et donc, ce Parti communiste va très vite entrer en conflit avec l'Église catholique.
Quelle est la situation de l'Église catholique en Pologne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Jean-François ?
Alors, en apparence, l'Église catholique en Pologne n'a jamais été aussi forte. Pourquoi ? Parce que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait en Pologne, dans la Pologne telle qu'elle existait à l'époque, tout au moins, de fortes minorités religieuses. Il y avait des Juifs, en très grand nombre, des gréco-catholiques ukrainiens, donc dans l'Ukraine actuelle, du côté justement de Lviv, des protestants d'origine allemande et des orthodoxes, souvent parlant le russe. Et en raison de l'extermination des Juifs par les nazis et de l'explosion de l'Allemagne, de la fuite des populations allemandes et ukrainiennes en 1945, ainsi que des échanges de populations avec l'URSS entre Russes et Polonais, la Pologne devient un pays presque exclusivement catholique. Mais justement, cette Église catholique va subir très rapidement des persécutions de la part d'un État communiste qui se veut athée. Cependant, donc, ce catholicisme polonais va s'incarner dans différentes grandes figures qui vont justement tenter de continuer à faire vivre le site de Częstochowa, à commencer par Monseigneur Auguste Lund.
Qui est Monseigneur Auguste Lund, justement ? Quel rôle va-t-il jouer, Jean-François ?
Alors, c'est un Salésien qui a été formé en Italie. Il revient en Pologne. Là, il est nommé évêque de Katowice en 1926 par le pape Pie X. Il devient cardinal en 1927, puis président de la conférence épiscopale polonaise de 1926 à 1948. Et donc, pendant la guerre, il est contraint à l'exil en raison de ses prises de position contre Hitler. Il trouve refuge d'ailleurs en France, à Lourdes, puis à l'abbaye de Hautecombe, où il est arrêté par la Gestapo le 3 février 1944. Refusant d'apporter son soutien à la formation d'un gouvernement polonais collaborateur des Allemands, il est déporté par les nazis en Lorraine, puis en Westphalie, où il est emprisonné, jusqu'à sa libération par les Alliés le 13 avril 1945. Alors à ce moment-là, il revient en Pologne, mais il trouve son pays donc occupé par l'armée rouge et donc en fait aux mains des communistes. Et donc il va à ce moment-là lutter contre toutes les atteintes aux libertés religieuses et s'efforcer d'affirmer malgré les difficultés l'identité polonaise de la Pologne. Et dans cette perspective-là, il a notamment consacré la Pologne au cœur immaculé de Marie en 1948, peu avant sa mort, et ça se passe bien sûr à Częstochowa.
Qui va lui succéder ?
Alors, un archevêque qui va jouer un rôle très important en Pologne, qui s'appelle Stefan Wyszyński. Il est emprisonné en 1956 par le pouvoir, et durant son emprisonnement, il accomplit l'acte d'offrande personnelle à la Vierge Marie, esclave de son amour maternel, je cite, et met au point tout un programme d'une grande neuvaine de préparation aux célébrations du millénaire du baptême de la Pologne. Et donc, inspiré par la prière de Jean Casimir de 1656, dont nous avions parlé dans une émission précédente, il rédige le texte des vœux de la nation de Jasna Góra, qui seront transmis donc ensuite au sanctuaire de Częstochowa pour y être prononcés le 26 août 1956 devant une assemblée d'un million de fidèles. Nous sommes à l'époque du communisme, donc un million de fidèles catholiques dans ce pays communiste, ça fait du bruit. Et ceci, par contre, sans la présence du primat, Wyszyński, puisqu'il est en prison.
Vous avez parlé du millénaire. Quand a-t-il lieu ?
Alors, en 1966. Mais il a été préparé, comme je l'ai dit à l'instant, par une neuvaine. Et durant les cérémonies principales du millénaire du baptême de la Pologne, qui ont lieu début mai à Jasna Góra, c'est-à-dire encore une fois Częstochowa, le 3 mai, au nom de l'Église de Pologne, Wyszyński prononce l'acte d'offrance de la Pologne à l'amour maternel de la Vierge Marie, mère de l'Église, pour les 1000 ans qui viennent, donc à venir, pour la liberté de l'Église du Christ en Pologne, je le cite, et dans le monde. Et par ses vœux, l'épiscopat veut non seulement fortifier la foi et la morale catholique de la nation, mais garantir la liberté de l'Église universelle. Alors, les commémorations du millénaire se déroulent non seulement en Pologne, mais en fait dans tous les milieux de la diaspora polonaise disséminés dans le monde, notamment en France, où il y a des églises polonaises qui existent, hein, par exemple à Troyes, pour citer une région qui n'est pas très loin de chez nous. Et donc le 13 et le 15 janvier, c'est le pape Paul VI à Rome qui prie officiellement pour la Pologne. Le cardinal Wyszyński invite alors officiellement le pape à venir célébrer l'événement donc en Pologne même, mais évidemment, les plus hautes instances de l'État communiste refusent au pape le droit de se rendre en Pologne.
Et Jean-Paul II, alors, dans tout ça?
Oui, parce qu'effectivement, on n'a pas encore parlé de Jean-Paul II. On en parlera très vite parce que ça serait un sujet à lui-même. Mais rappelons que Jean-Paul II est élu en 1978 et que justement, c'est un Polonais, bien entendu, c'est un événement de ce point de vue-là. Et un de ses premiers actes, c'est de se rendre en pèlerinage en Pologne et plus particulièrement, évidemment, à Częstochowa, ceci donc l'année suivante, en 1979. Et c'est un événement marquant, incontestablement, parce qu'il inaugure une nouvelle période, n'ayez pas peur, dit-il. Et l'année suivante, d'ailleurs, une des conséquences indirectes de cette venue de Jean-Paul II en Pologne et de la mobilisation qu'elle entraîne chez les catholiques, y compris en milieu ouvrier, ce sont les grèves du syndicat Solidarité, autrement dit en polonais, Solidarność.
Quel est le rapport de Solidarność avec Częstochowa?
Alors, il y en a un, parce qu'effectivement, Solidarność a été fondée et dirigée par un catholique pratiquant qui s'appelle Lech Walesa, tout le monde le connaît. Il n'a pas agi seul, il a agi dans une perspective plus globale avec d'autres personnages, notamment des intellectuels comme l'historien Guéremec, qui n'étaient pas forcément des catholiques pratiquants, loin de là. Mais justement, Lech Walesa, donc, on va pas retracer toute sa carrière, mais rappeler simplement que l'action qu'il a menée en Pologne lui vaut d'obtenir en 1983 le prix Nobel de la paix, et que justement, ce prix Nobel de la paix, sa femme lui rappellera de Stockholm, parce que lui, il ne veut pas aller à Stockholm de peur de ne pas pouvoir revenir en Pologne après cela. Il va être déposé donc à Częstochowa, donc au musée. Et donc, comme vous le voyez, on conclura là-dessus, dans l'histoire de la Pologne, le sanctuaire de Jasna Góra à Częstochowa n'est jamais très loin.
Merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé sur Częstochowa lors des trois derniers numéros de Mémoire chrétienne. À très bientôt.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
18h22, un maire nous parle. Qui est avec vous, Jean-Pierre, aujourd'hui?
Et notre maire aujourd'hui est Monsieur Bernard Veller. Il est maire de Villers-Allerand dans le département de la Marne. Bernard Veller, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous, Bernard Veller. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve. On vous avait interrogé il y a quelques semaines à propos de votre commune, Villers-Allerand. Est-ce que, pour les auditeurs qui ne vous auraient pas entendu la dernière fois ou qui ne connaissent pas bien parce qu'ils sont des Ardennes ou d'ailleurs, nous présenter un peu cette commune de Villers-Allerand dont vous êtes le maire depuis 2020?
Voilà, ben Villers-Allerand est une commune urbaine, c'est-à-dire qu'elle n'est ni rurale ni urbaine. Elle est bien sûr en milieu rural puisqu'on est situé entre Reims et Épernay sur la RD 951. Le village comprend également le hameau de Montchenot qui est bien connu des habitants qui empruntent la voie Reims à Épernay. Donc c'est une commune rurale de 950 habitants et nous sommes à la fois une commune viticole, agricole et forestière, mais essentiellement résidentielle, et nos habitants travaillent sur essentiellement Reims et Épernay.
Et c'est une belle commune, on sait quand on traverse, c'est un peu, on monte dans la montagne de Reims, on voit les vignes apparaissent. Oui, c'est quand même un village où on peut se promener, il y a quand même des découvertes à faire du côté de Villers-Allerand.
Exactement, parce que déjà Villers-Allerand est la première commune en venant de Reims du parc naturel régional de la montagne de Reims. C'est une commune, comme je vous l'ai dit, qui est sur l'axe Reims-Épernay, donc qui fait également partie de la mission UNESCO. Et comme on est le premier bassin forestier en provenance de Reims, ça attire énormément de Rémois qui viennent se promener dans nos belles forêts du plateau de la montagne de Reims.
Monsieur le maire, il faut dire que dans cette belle commune de Villers-Allerand, où on connaît bien sûr Montchenot, hein, puisque beaucoup de gens empruntent cette route, depuis printemps 2024, il y a un certain nombre de réalisations. On a parlé de l'ouverture d'un parking.
Exactement. La commune manquait cruellement de place de parking en plein cœur de village. Donc, nous avons réalisé un parking d'une vingtaine de places, dont la surface est entièrement désimperméabilisée, c'est-à-dire que ça ne crée pas de nouvel accès au réseau public des eaux pluviales. Et sur cet espace, il y a un bâtiment qui accueille un atelier de verrier et un cabinet de naturopathie et sophrologie. Donc, à nouveau, une nouvelle activité au sein du village. Et ce parking permet également l'accès direct de la rue du voisin au jardin municipal qui est contigu.
Ça veut dire peut-être aussi, je ne connais pas bien les lieux, monsieur le maire, mais qu'on pourrait éventuellement, de temps en temps, garer sa voiture de ce parking et puis se promener dans les environs. Bien que le parking, il faut quand même le laisser peut-être aux professionnels.
Non, il est à usage de tous les habitants, mais également des visiteurs. Nous avons énormément de personnes qui viennent, qui stationnent à Villers-Allerand et qui se dirigent en direction de la montagne de Reims pour randonner.
Alors justement, vous êtes très sensible à cette beauté de votre village, Villers-Allerand, au milieu des vignes et de la forêt, vous l'avez déjà mentionné, mais aussi on a parlé aussi d'innovation écologique. Vous êtes là-dessus branché, il y a eu quelques innovations, je crois.
Exactement, nous venons de réaliser ce printemps la mise en place d'une haie le long d'un bras du Rouillat. Le Rouillat, c'est un petit ruisseau qui vient de la montagne de Reims et qui alimente la Velle. Et nous avons planté 800 mètres de haies vives le long de ce bras du Rouillat pour faire un couloir écologique et favoriser la biodiversité de façon à ce que la plaine de Champagne ne soit pas entièrement dénudée et recouvre à nouveau des arbres et des haies.
Ça veut dire aussi, monsieur le maire, que ça peut être, avec cette haie, un lieu propice à la promenade qui ajoute encore un plus à ce côté bucolique un peu de la commune.
Exactement, et nous souhaitons à plus long terme que des communes voisines nous emboîtent le pas, de façon à ce que, par exemple, depuis Champfleury, pour rejoindre Villers-Allerand en venant de Reims, eh ben, on puisse avoir un parcours qui soit un peu plus boisé, un petit peu plus agréable qu'il n'est actuellement.
Pour imaginer donc cette haie ou ce parcours de Reims jusqu'à la montagne de Reims, ça serait une très très belle idée. En tout cas, vous y participez très largement, monsieur le maire. Alors justement, on a évoqué à l'instant Montchenot, et Dieu sait s'il y a de nombreux auditrices et auditeurs de RCF qui empruntent cette route vers Épernay ou de Épernay à Reims. Et il va y avoir des changements dans la traversée de Montchenot, monsieur le maire?
Exactement. À partir du 24 juin, les travaux de voirie vont commencer. Les années précédentes, la communauté urbaine du Grand Reims et le CIEM ont réalisé l'enfouissement des réseaux secs et humides, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de fil téléphonique, de fil électrique visible, rénovation complète des candélabres. Et nous avons également fait la rénovation complète des réseaux humides, c'est-à-dire réseaux d'adduction d'eau, réseaux d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Et donc, comme je vous le disais, à partir du 24 juin, nous allons commencer pour environ 6 à 8 mois des travaux de rénovation de voiries, création de places de parking en gazonné, de trottoirs pour que les gens puissent circuler, parce que nous pensons essentiellement aux habitants et aux riverains, et également réfection de la voirie en collaboration, bien entendu, avec le département, puisqu'il s'agit d'une route départementale extrêmement fréquentée, puisque environ 18 000 véhicules jour empruntent cet axe Reims-Épernay.
Alors ça, c'est une information pour nos auditrices et auditeurs. Ça va durer quand même 6 à 8 mois de travaux, donc la circulation sera forcément réduite, mais enfin, il faut en passer par là, mais la route ne sera pas fermée. Rassurez-nous, la route de Montchenot ne sera pas fermée.
Tout à fait. Nous avons, en accord avec le département et avec les entreprises qui vont réaliser les travaux, maintenu la circulation des véhicules légers dans les deux sens. Elle sera certes impactée, ralentie, la circulation sera limitée à 30 km/h dans la traversée de Montchenot pour permettre aux entreprises de travailler. Seuls les poids lourds seront déviés pendant quelques semaines pour permettre certains travaux, mais la circulation ne sera à aucun moment interrompue, sauf en phase terminale, mais uniquement pendant la nuit, pendant environ une dizaine de jours, pour réaliser le tapis final, mais ça se passera de nuit, donc ça impactera très peu la circulation.
Merci en tout cas, Monsieur Bernard Veller, maire de Villers-Allerand, d'avoir été avec nous dans cette émission « Votre maire nous parle ». Et alors, avant le 24 juin, on en reparlera sur RCF, car c'est une information, comme on dit, service, qui est importante pour nos auditeurs qui utilisent leur voiture. Et vous en avez dit, il y en a 18 000 hein, qui empruntent cette route de Montchenot. On aura l'occasion, Monsieur le maire, merci beaucoup et à très très bientôt.
Merci et au plaisir de vous retrouver prochainement. À très bientôt.
À très bientôt.
18h30 sur les ondes de RCF, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce mardi 28 mai, vive émotion à l'Opéra de Reims ce matin au moment de rendre hommage à Serge Guémard, ancien directeur décédé subitement fin avril dans l'incendie de sa maison. Reportage. La 75e édition Paris-Alsace Crédit Mutuel traversera le territoire marnais demain et jeudi avec deux épreuves cette année, la mythique sur 450 km et la cabu sur 250 km découverte.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le président de la région Grand Est, Franck Leroy, est actuellement dans les Ardennes. Il y passe deux jours. Ce matin, il a notamment visité à Charleville-Mézières le chantier du futur hôtel Place du Cal. Cet après-midi, il a signé avec Ardennes Métropole un contrat métropolitain de 20 millions d'euros afin de lancer de nouvelles dynamiques de transition écologique et économique. À l'Opéra de Reims, l'émotion était grande ce matin au moment de rendre hommage à Serge Guémard, ancien directeur de l'Opéra entre 1999 et 2023, décédé le 27 avril dernier dans l'incendie de sa maison. Arnaud Robinet, maire de Reims, peint le portrait d'un homme qui a œuvré pour favoriser la culture à Reims.
Un homme d'une finesse extrême, avec un grand humour, mais en tout cas un homme très cultivé, un homme qui aimait aussi, je dirais, aller vers les autres, c'est-à-dire qu'il ne s'enfermait pas dans son château, d'une certaine manière, au sein de l'opéra, mais il allait vers les autres, il avait une politique du aller vers, donc un humaniste d'une grande intelligence. Il a fait de l'opéra ce qu'il est aujourd'hui, un établissement culturel qui fait partie intégrante, je dirais, de l'ADN de notre ville, mais qui est reconnu au-delà de nos frontières administratives. Il a surtout aussi mené une politique qui a permis de démocratiser la culture et l'opéra, notamment envers la jeunesse. Donc, c'est un homme qui a beaucoup compté pour la vie de la cité et pour la culture d'une manière générale.
La fille de Serge Guémard, Valentine, appuyait ses propos au moment de l'hommage.
Il a fait notamment partie donc, de Culture du Cœur, dont il était le président. Et il a collaboré avec beaucoup de personnes au manège, etc. Et il a aussi beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, participé à des spectacles pour, en fait, justement, les quartiers défavorisés, pour les gens qui n'avaient pas forcément accès à ça. Donc oui, il a fait quand même pas mal de choses et je pense que ça reste une figure et c'est grâce à lui, je pense, que l'Opéra de Reims est maintenant, en fait, dans la culture de la musique et du spectacle, un opéra qui a un nom et qui n'est plus juste un opéra de campagne, quoi, finalement.
Des propos recueillis par nos stagiaires à la rédaction, Inès El-Galoussi et Medina Erich, que l'on retrouve tout de suite avec un retour dans les Ardennes, où la jeune chambre économique se mobilise pour une opération propreté ce mercredi, Medina.
Demain, la jeune chambre économique en Ardennes organise une action de ramassage des mégots au parc de l'île du Vieux-Moulin à Charleville-Mézières dès midi. Cette action se nomme Mégot Malin et entre dans un partenariat entre la ville de Charleville-Mézières, les commerçants locaux et plusieurs partenaires de l'association. Un partenariat d'autant plus significatif puisqu'il permettra d'intégrer l'initiative environnementale au sein du tissu économique et social du centre-ville. En effet, bien que le but premier soit de récupérer et recenser les mégots de cigarettes, l'action ouvrira également les portes à un dynamisme d'autant plus présent pour le centre-ville tout en soutenant les commerces locaux. Par ailleurs, une cartographie de la présence des mégots sera réalisée afin de permettre l'installation de conteneurs aux endroits propices pour les récolter. Ces derniers pourront être à terme transformés ou recyclés à d'autres fins. Bien évidemment, les citoyens sont conviés à participer activement à cette belle action qui souligne un engagement certain en faveur de l'environnement et de l'économie locale.
Merci Medina. Cette semaine se déroule la plus longue épreuve de marche au monde, la course Paris-Alsace Crédit Mutuel. Le départ a été donné aujourd'hui à Neuilly-sur-Marne avec une ligne d'arrivée à Colmar ce samedi 1er juin. Plus de 30 participants se frottent à la marche qui traversera le département de la Marne. Une course hors norme pour Dominique Plé, président de l'association Marche Mythique Organisation qui organise la course depuis 2015.
Quand on sait que les courses les plus longues sont de l'ordre du marathon, 42 km, les marcheurs, eux, vont jusqu'à 500, 520 km ou 530 km. Et c'est en cela que c'est hors norme, car le temps est compté, puisque l'épreuve se déroule en gros sur 4 jours. Et donc 4 jours, ça veut dire une moyenne de 7 km/h à pied, en marchant, c'est énorme.
Pour cette 75e édition, la course fait halte à Châlons-en-Champagne ce jeudi avec la course principale et la course par étapes, baptisée cette année la Cabu, un nom qui n'est pas anodin, Dominique Plé.
Cabu est natif de Châlons-en-Champagne et puis qu'il a monté un canular en 1959 autour de l'épreuve qui était Strasbourg-Paris à l'époque, lui et des amis, en étant les premiers à arriver à Châlons, avec une caricature un petit peu de l'épreuve, mais qui n'était pas si loin de ce qui se passait dans les premières années, dans les années 1925, 26, 27, etc.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. La course par étapes fera d'abord un arrêt ce mercredi 29 mai à Dormans avant de poursuivre le lendemain à 9h30 dans la ville natale de Cabu. Les deux courses passeront dans plusieurs communes marnaises dont Pony, Vitry-le-François, Favrès, Parny-sur-Sault et Sermaise-les-Bains. À noter que la course perturbera certaines routes marnaises, notamment la RD995, la D396, la D982, la D1, la D3 et les réseaux secondaires. 18h36, place à la météo de la nuit et de mercredi avec Inès Elgaloussi. Bonsoir Inès.
Bonsoir Alexis.
Quel temps à venir en Champagne-Ardenne dans les prochaines heures ?
Dans la nuit du mardi 28 mai, de la pluie est prévue sur l'ensemble du département dans les Ardennes, où il fera 14 degrés à Charleville-Mézières et Sedan. La pluie pointera également le bout de son nez dans la Marne, où il fera 15 degrés à Reims, Châlons-Champagne et Vitry-le-François. Dans l'Aube et dans la Haute-Marne, le ciel sera couvert à Troyes, Bar-sur-Seine et Saint-Dizier, où les températures annoncées sont de 15 degrés. Demain matin, la pluie sera toujours au rendez-vous dans les Ardennes et dans la Marne, où les températures sont estimées à 13 degrés à Charleville-Mézières et 14 degrés à Reims et Châlons-en-Champagne. Il en va de même dans l'Aube et dans la Haute-Marne, car de la pluie est annoncée dans les deux départements, où il fera 14 degrés à Troyes, Bar-sur-Aube et Saint-Dizier. Demain après-midi, la pluie sera d'actualité sur l'ensemble des départements. Dans les Ardennes, il fera 15 degrés à Charleville-Mézières. Il en va de même dans la Haute-Marne, car les températures estimées sont de 15 degrés à Saint-Dizier et Chaumont. Quant à la Haute-Marne et l'Aube, les températures sont estimées à 17 degrés à Reims, Troyes et Bar-sur-Aube. Demain, nous souhaiterons une joyeuse fête à tous les Maximins. Je vous souhaite une agréable soirée.
Merci Inès, très belle soirée à vous aussi. Ainsi se referme ce journal. Demain, exceptionnellement, il n'y en aura pas, émission spéciale fin de vie avec Jean-Pierre Benoît et ses invités, parmi eux Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi des médecins spécialistes de la question. Le 18-19 en Champagne continue pour le moment ce mardi sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Depuis le 8 avril 2012, la ville de Sézanne a lancé son Conseil des Sages, une initiative qui vise à encourager une participation active des seniors et retraités de la commune à la vie citoyenne. Édith Danel, membre du Conseil des Sages de la mairie de Sézanne, est avec notre correspondant Christian Lanciot.
Bonjour Edith.
Bonjour, bonjour Christian.
Depuis combien de temps ça existe ?
Depuis 2 ans, hein, depuis avril 2022. Et bon, depuis, on travaille en collaboration avec monsieur le maire de Sézanne.
Vous êtes combien ?
9 membres, 5 femmes, 4 hommes.
Cette opération, on peut dire, de créer un conseil des sages, c'est venu comment alors ?
Ben, monsieur le maire l'avait mis dans son programme municipal et donc pour tenir parole, il a lancé cette petite demande et on a rempli un document qui a été accepté et voilà, le Conseil des Sages a été constitué de cette façon.
Tout le monde a été accepté.
Tout le monde a été accepté.
Il y avait des critères quand même d'admission quand même.
Avoir plus de 60 ans et puis ne pas faire partie d'une autre association ou conseil municipal ou voilà.
Votre groupe, on peut le dire, c'est un peu devenu une famille maintenant depuis 2 ans.
Oui, on se fait tous confiance, on se connaît, on s'apprécie, on sait qu'on va tous dans le même sens et donc ça nous permet de travailler sereinement et de se retrouver régulièrement avec plaisir.
Vous avez institué une périodicité de réunion ?
Oui, tout à fait. On essaye de se voir au moins une fois par mois, surtout quand il y a des dossiers qui sont assez importants et où on veut vraiment faire le point et travailler. Et puis ensuite, il y a les réunions un petit peu ponctuelles, ou avec notre élu référent, ou avec le maire, ou lorsque on se pose des questions et qu'on veut savoir un peu comment on progresse.
Mais alors donc, quand vous vous retrouvez autour d'un thème, vous pouvez être amené donc à inviter d'autres personnes pour venir avec vous alors ?
Exactement, on peut inviter ou notre élu, si on a besoin de lui poser des questions sur un certain nombre de choses qui concernent la municipalité, ou par exemple un des membres de l'équipe municipale de la jeunesse, des jeunes, pour des sujets qui les concernent davantage. Et puis parfois on rencontre des personnes qui connaissent bien la ville, voilà. Donc c'est un peu l'ensemble des gens qu'on est susceptible de rencontrer pour nous aider à travailler.
Donc en fait, vous pouvez vous collaborer pour améliorer la vie de la cité.
Exactement, on essaye d'aller dans ce sens, et puis on essaye aussi de retracer un petit peu Cézanne et son passé, Cézanne et son histoire, Cézanne et son évolution. Et apparemment, ça intéresse un certain nombre de personnes, en particulier Monsieur le maire, qui nous pousse vraiment à aller dans ce sens et à continuer à travailler pour donner à Cézanne une vie un petit peu concrète.
Les personnes qui font partie des 9 personnes, je suppose qu'elles avaient des métiers différents, travaillaient dans des domaines différents, et donc ça vous permet de bien mixer un petit peu tous ces métiers.
Oui, exactement, d'autant que ça amène des argumentaires d'un peu partout, ça enrichit les débats, d'avoir des personnes qui sont d'origine du privé, qui ont dirigé des entreprises, qui ont été dans la fonction publique, donc ça donne un éventail d'idées, d'arguments, qui permettent de travailler dans le plus large éventail, d'avoir le plus d'idées.
Alors, est-ce qu'on peut maintenant parler concrètement de projets que vous avez eu l'impression de faire aboutir ?
Alors, on est très fiers de notre petit annuaire des rues et ruelles de Cézanne qu'on a développé. Et on a fait beaucoup de recherches. On est allé aux archives, au cimetière. Enfin, on a vraiment cherché pour donner à ces rues une vie, une nouvelle vie. Et puis, le second dossier sur lequel on travaille actuellement, c'est donc si Cézanne m'était comptée, à partir des témoignages d'un certain nombre d'anciens de la commune qui ont vécu quasiment toute leur vie, qui parfois même y sont nés et qui nous ont apporté une richesse en témoignant de tout ce qu'ils avaient vécu, de tout ce qu'ils avaient vu évoluer dans la commune et de leur propre vécu au sein de cette petite communauté de champenoise.
Donc ce sont des personnes qui a priori sont encore plus vieilles que vous.
Oui, tout à fait, encore plus vieilles que nous, certaines sont nées dans les années 30, les plus âgées. Donc forcément, vont vers les 90 ans. Ils sont vraiment une somme d'informations incroyables et fantastiques.
Merci Edith Danel. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis on viendra vous revoir pour voir un peu l'évolution de nos travaux.
Les remerciements sont faits. Il ne reste plus qu'à vous remercier à notre tour. Christian Lanciot depuis Cézanne dans le sud-ouest marnais, 18h43.
Le 18-19 sur RCF.
Et en studio, on a le plaisir de recevoir Hervé Ruinard, le président du syndicat des médecins généralistes de la Marne, avec Jean-Pierre Romanette pour poser des questions.
Docteur Hervé Ruinard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vrai que actuellement, on parle beaucoup des médecins. Ils sont dans l'actualité, en particulier déjà sur le tarif de la consultation à 30 euros, dont on parle depuis des mois et des mois maintenant.
Alors, on en parle depuis longtemps. On a eu quelques deniers qui ont été donnés à 1,50 € en début d'année pour compenser un petit peu l'absence de convention. Là, on devrait pouvoir peut-être passer à 30 euros. À condition que les syndicats différents signent, et il faut une majorité de syndicats pour signer. On a eu le texte officiel hier soir, donc c'est en cours de discussion, et les assemblées générales vont se positionner. Et dans tous les cas, n'importe comment, cela ne sera applicable qu'à partir de début décembre 2024.
Alors, vous le dites souvent d'ailleurs avec votre syndicat, vous êtes conscient des difficultés sociales, économiques que la France connaît, mais vous dites quand même les exigences qui sont les nôtres ne sont pas du tout inadaptées, c'est
voilà,
normal quoi.
Tout à fait, on veut simplement rééquilibrer. Ce rééquilibrage à 30 euros, c'est un simple rééquilibrage, puisque le problème quand on signe une convention, elle est partie pour 5 ans. Donc effectivement, on a un blocage des tarifs depuis 5 ans, donc ça, je pense que dans la prochaine convention, on va arriver à négocier une clause de revoyure, comme on dit, au bout de deux, trois ans pour réactualiser, pour ne pas avoir un fossé. Parce que là, les entreprises médicales sont quand même un petit peu en difficulté avec nos frais qu'on a, qui eux n'ont fait qu'augmenter avec nous quelque chose qui était bloqué.
La question est donc de savoir, docteur Hervé Winard, si c'est vraiment une solution ou si c'est une demi-solution, parce que se pose quand même au quotidien le problème de la démographie médicale et vous en êtes le témoin.
Exactement. Donc, puisque moi je suis sur ma fin de carrière, effectivement, j'ai beaucoup de mal à trouver un successeur pour le moment. Dans la mesure où c'est un simple rééquilibrage, nos jeunes successeurs qui risquent d'arriver sur notre patientèle, eh bien effectivement, ils disent à ce tarif-là, non, j'y vais pas. L'attractivité, c'est des termes un peu à la mode, n'est pas là. On a beau avoir des forfaits, mais les forfaits, on les a au bout d'un an ou deux. Donc effectivement, eux, ils disent, on travaille pour pas cher. On fait quand même le premier recours qui est essentiel, pour ne pas encombrer tous les urgences de cliniques ou d'hôpitaux actuellement. Et effectivement, si on supprime ce premier échelon, là, on verra la cascade qui va arriver dans les services d'urgence.
C'est un changement de mentalité. Les jeunes qui arrivent, qui sont pleins de bonne volonté, qui sont sans doute des passionnés de médecine, ben, ils y regardent en deux voies. Ils se disent, est-ce que l'attractivité est suffisante?
Voilà, tout à fait. Maintenant, je pense qu'il y a un changement de paradigme. C'est également à la mode. Je pense qu'ils veulent organiser leur travail différemment, avec un temps libre, un temps de famille.
Une forme de qualité de vie.
Voilà, une qualité de vie qu'on peut tout à fait comprendre aujourd'hui et qui s'est généralisée dans tous les métiers, donc on n'est pas spécifique là-dedans.
Parce que vous, il n'est pas rare, docteur, qu'à 20h, vous soyez encore dans votre cabinet.
Maintenant, les jeunes, ils ne veulent plus en entendre parler. Ouais. Donc nous, on est les vieux, on va terminer comme ça. Mais pour les jeunes, ils ne veulent plus s'astreindre à ces choses-là. Ce qu'on peut comprendre, donc à ce moment-là, effectivement, il faut quand même faire tourner l'entreprise. Si on travaille moins et il faut payer les frais, ben voilà.
Et puis surtout, il y a moins de médecins, parce qu'actuellement, il y en a beaucoup de départs en retraite.
Alors voilà.
On voit des cabinets qui ferment quand même dans Reims.
Complètement. Des médecins
qui s'en vont, et c'est pas évident. Est-ce qu'au-delà de la question des médecins généralistes, ne se pose pas l'ensemble du système, peut-être à revoir de façon globale avec les hôpitaux, avec l'urgence, avec le...
Oui, je pense qu'il va falloir essayer de refonder ça, mais comme on est toujours dans un traitement dans l'urgence, il faut colmater les brèches, il faut que le système tienne, etc. Donc on se projette jamais à long terme parce que ça engage des gouvernements sur des durées très longues, donc ça c'est impossible à gérer dans nos systèmes actuels. Donc ça reste quand même très compliqué. La solution idéale, je dis pas qu'elle est simple, mais il faut quand même ce premier recours. Tous les pays qui n'ont pas de premier recours, vous voyez aux États-Unis comment ça se passe, ou en Angleterre, c'est très compliqué de se faire opérer, de se faire prendre en charge au deuxième échelon. Hein. Donc effectivement, le premier rempart de la médecine générale, c'est le pivot de tout système de santé régulier et, disons, organisé. Après, effectivement, les hôpitaux, les spécialités, etc., tout le monde a sa place. Hein, mais il faut harmoniser et rendre le premier échelon attractif. Sinon, effectivement, entre une consultation de spécialiste qui va être projetée à 60 euros et une consultation qui, pour nous, est à 30, ben le jeune étudiant, il a vite compris. Hein.
On invente toujours des sigles, mais derrière ces sigles, il y a certainement des organisations et des fonctionnements. Tout récemment, on a entendu parler de la CPTS, et bon, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, bon, c'est un peu compliqué. De quoi s'agit-il?
Oui, c'est un nouvel échelon.
C'est un projet.
Oui, alors c'est un projet qui va se concrétiser apparemment sur la ville de Reims, là, qui s'est déjà concrétisé dans d'autres secteurs de la Marne, et de toute la France d'ailleurs, qui permet d'améliorer l'architecture, en fait, entre les médicaux, les paramédicaux, les services sociaux, les hôpitaux, les cliniques, etc. Bon, à croire qu'il n'y a aucune communication. Donc moi, j'ai un peu de mal à comprendre aussi ça. Il y a des choses qui se sont faites depuis quelques années en local pour améliorer ces relations. Ce qui est un peu caché derrière ça, c'est de rendre responsable le corps médical et paramédical des pénuries à venir. Hein, puisqu'en fait, la CPTS va être obligée de gérer un territoire de santé. Et donc, s'il y a un problème dans ce territoire de santé, on va dire, c'est la faute de CPTS, et les médecins et les paramédicaux sont incapables de s'organiser pour soigner la population française.
En quelque sorte, on dit aux médecins, débrouillez-vous entre vous et puis organisez pour que ça fonctionne.
Mais c'est bien quand il y a des effecteurs. Quand on n'a pas d'effecteurs et que la démographie de médecine générale, entre autres, va en diminuant, on va pas les sortir d'un chapeau. Donc le médecin qui voit 30 patients déjà à l'extrême, si on lui dit vous allez en prendre 35 ou 40, vous aurez peut-être une infirmière pour vous aider, le gars, il voudra pas. Enfin, on peut le comprendre, il veut pas bâcler son travail, il veut garder une qualité de vie. Et ça va devenir malheureusement très compliqué. Et ça, on va le découvrir à partir de maintenant, pour les 5-6 ans qui viennent. Dans 5-6 ans, on sera au fond du trou. Après, ça risque de remonter.
Mais alors, docteur Hervé Ruinard, cette fameuse CPTS, ça va aussi contribuer à augmenter un certain nombre de coûts, parce qu'il y a une petite structure quand même.
Oui, alors le coût de la structure, là, on trouve de l'argent hein, pour créer des trucs comme ça. Alors, sous des grands discours d'améliorer la fluidité de la communication, enfin bon, c'est des termes de communication et de parole. Sur le terrain, concrètement, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Il faut peut-être un peu mieux les mailler entre eux. Bon, ça, c'est possible. Mais la CPTS qu'on présente comme la solution extraordinaire, à mon avis, n'est pas la solution idéale. Elle peut aider, mais voilà, ça reste à faire sa preuve.
Et on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Merci, docteur Hervé Ruinard, président du syndicat des médecins généralistes, d'avoir été avec nous. Jean-Pierre, je vous coupe un peu le sifflet parce qu'il nous reste encore des invités et un reportage à faire. Donc tout de suite, on y va à 18h50.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Dans le cadre de la 21e édition des rendez-vous au jardin organisés par le ministère de la Culture de vendredi jusqu'à dimanche, la rédaction RCF est partie à la rencontre des participants au jardin solidaire situé avenue de Sainte-Menou à Chalon-en-Champagne, un projet porté par le diocèse de Chalon. Le reportage, c'est avec Christopher Fausten.
Nous arrivons à l'avenue de Sainte-Menou. Bonjour Denis Renaud.
Bonjour Christopher. Bienvenue au jardin de la fraternité.
Ah, on ne dit pas jardin solidaire, on dit jardin de la fraternité.
Et oui, en effet, c'est un jardin où les choses poussent. L'idée de ce jardin a évolué, a poussé en même temps que les plantes qui sont sur le terrain. Et c'est devenu le jardin de la fraternité.
Je vous propose, Denis, qu'on y rentre dans ce jardin de la fraternité. Ce lieu, on peut dire, à l'écart de l'avenue de Sainte-Menou, on est dans un endroit assez calme. Alors, est-ce qu'on peut présenter un petit peu le concept et l'intérêt de ce jardin de la fraternité qui existe déjà depuis combien de temps ?
Alors, ce jardin a démarré, voici déjà 2 ans. Monseigneur Touvet avait procédé à la bénédiction de ce jardin. Ça nous a encouragé très vite à entrer dans l'action, à se mettre en mouvement pour accompagner les personnes qui étaient en difficulté, en précarité, étant délégué à la pastorale des migrants,
oui.
Je suis amené à rencontrer des gens qui vivent la précarité, des formes de pauvreté, qui ont besoin d'être soutenus, d'être encouragés, de se sentir aimés. C'est pas évident d'arriver d'un pays lointain et essayer de s'implanter en France.
Combien sont ces volontaires à ce jardin ?
Nous avons une dizaine de familles. Un ou deux couples un petit peu plus âgés, mais sinon ce sont des jeunes familles avec des jeunes enfants. En fait, c'est des familles qu'on reçoit. Des enfants sont scolarisés, ces personnes vivent soit à l'hôtel, soit dans des foyers où l'espace est restreint et où la vie est très difficile. Et là, ici, par contre, ils trouvent une certaine liberté, une liberté de mouvement, de l'espace, le calme, malgré la proximité de la ville d'une façon très proche, quoi.
On vient de s'éloigner de l'avenue de Sainte-Menou, on vient de franchir ces quelques mètres, on vient d'arriver justement sur ces différentes parcelles qui sont autour de nous, avec beaucoup de personnes, beaucoup de familles, des enfants, des parents qui sont là pour bien jardiner ensemble, le tout de façon conviviale avec le soleil aujourd'hui. On a de la chance, on a le beau temps qui est avec nous. Comment sont réparties ces différentes parcelles ?
Certaines familles sont là depuis le départ, depuis 2 ans. Ces personnes sont en situation administrative diverse, mais peu importe, on les accueille de la même façon, c'est-à-dire en frères. Enfin, on essaye de vivre cette fraternité avec elles. Elles apprécient puisqu'elles viennent surtout quand il y a le groupe, quoi. Elles recherchent justement une vie de groupe, une vie qui fait du bien au cœur, qui fait du bien au moral, compte tenu de leur situation des fois vraiment très difficile, quoi.
Alors, une vie de groupe, elle a lieu 2 fois par semaine, c'est ça ? Les mercredis, les samedis ?
Alors, actuellement, là, nous avons repris les activités du jardin à partir de début mars, à peu près. On vit un printemps quand même relativement très difficile au niveau météo.
Très humide, on peut le dire.
Très, 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 très humide. On l'entend beaucoup sur les ondes.
Bon, aujourd'hui, ça va. Il fait beau, on a de la chance.
Voilà, voilà. Le Seigneur est avec nous. Les gens sont présents. Le rendez-vous est principalement donné le mercredi et le samedi après-midi, puisque voilà, les enfants ont besoin de s'aérer. Et justement, sur le jardin, il y a aussi un défrichage d'engagés pour avoir un espace enfant. Quand je suis arrivé, il y a une enfant qui est arrivée qui me dit « Waouh, j'ai cueilli la première fraise !» une première fraise dans un carré plus loin, oui, là-bas. Oui. C'est pour dire que les enfants s'intéressent au travail de leurs parents.
Oui.
Et ça, c'est merveilleux, quoi. Pour souder leur propre famille, il y a un intérêt commun à la famille, c'est pas seulement à une personne. Hein, mais c'est la famille qui profite un petit peu de cet espace, quoi.
Oui. Toujours avec Denis Renaud, qui est délégué diocésain pour la pastorale des migrants au diocèse de Chalon. On continue notre petit tour sous un beau soleil, mais aussi avec le vent qui nous accompagne. En même temps, ça rafraîchit un petit peu parce que le soleil, il tape quand même bien cet après-midi. On découvre plein de parcelles avec des noms. On retrouve notamment une parcelle avec un mot très important, Laudato si.
Quand le jardin s'est installé, on a dit ben, on va l'appeler Laudato si,
oui,
en référence à l'encyclique du pape sur l'environnement.
Tout à fait.
Et en vision de ce que vit la planète actuellement, il est important de lier cette aventure du jardin avec notre propre foi, avec notre créateur, celui qui a fait le ciel, la terre, la plante, les plantes, les animaux, les fleurs des champs.
Oui.
Et tout ça, c'est important pour la vie de l'homme. Donc, loué soit le Seigneur, Laudato si, Laudato si. Oui. Et en fait, tout le monde s'y retrouve.
Alors, on continue à se balader, Denis Renaud. Voilà. On a donc les familles qui viennent se réunir au moins deux fois par semaine pour l'organisation, pour la préparation de ce jardin solidaire. Vous n'êtes pas tout seul, Denis Renaud, vous avez Sœur Assunta et Catherine. Alors, je vous rejoins. Bonjour, Sœur Assunta.
Bonjour, ça va?
Oui, bien.
Bienvenue au jardin solidaire.
Alors, qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui?
On plante des choux.
Oui.
Oui, dans la partie parcelle solidaire. C'est-à-dire que cette partie est commune. Chacun donne coup de main,
oui,
et le fruit est partagé à tous. Contrairement aux autres parcelles qui sont plus individuelles et chacun met ce qu'il veut.
Alors Catherine, je vous embête, là vous êtes en train de planter justement les choux. Alors c'est la bonne saison?
Il paraît.
Il paraît?
Alors entre les limaces, les oiseaux, quelquefois on a des surprises, c'est-à-dire qu'on vient le samedi et le samedi suivant il n'y a plus rien parce que les petits oiseaux se sont régalés.
Alors là vous plantez combien de choux cet après-midi?
Il y a 5-6 choux qui nous ont été donnés. Donc on les remet en terre sur la parcelle solidaire et puis s'il en reste à la fin de la saison, ils seront partagés pour ceux qui consomment du chou.
Alors c'est à quel moment qu'on récolte les choux?
En octobre.
Octobre?
À peu près.
Donc je vous donne rendez-vous en octobre alors.
Eh bien, si vous voulez, avec plaisir.
Je vous laisse travailler Catherine, merci beaucoup.
La terre a été bien préparée par André, un autre jardinier, donc après c'est facile. Un petit coup d'arrosoir et ça sera parfait. Il faudra aussi mettre des protections pour éviter la compagnie des oiseaux.
Comment vous faites?
Eh bien, on va essayer de les effrayer un peu, comme les gens ont mis, là, vous voyez, des bâtons avec des ficelles et des bouts de plastique, ou bien bon, quelque chose qui fait du bruit et qui bouge.
Donc ça marche plutôt bien.
Jusqu'ici, oui.
Merci Catherine, merci Sœur Assunta de ce partage de ce que vous faites cet après-midi. Bon courage à vous, ça va aller?
Oui, ça va aller, merci beaucoup.
Bon, le soleil est au rendez-vous?
Oui, le soleil est au rendez-vous.
Merci Sœur Assunta, merci encore une fois Catherine. Allez, on quitte la parcelle de Sœur Assunta et de Catherine. On se rejoint juste à côté, où là on retrouve une parcelle assez grande. Bon, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Areva, je suis arménienne.
Alors, vous présentez-nous votre parcelle, parce que là, je viens de vous embêter en train d'arroser beaucoup de choses. Vous avez des tomates, de la salade, des radis, des pommes de terre. Vous cultivez beaucoup de choses?
Oui, oui. Moi, ici, je cultive beaucoup de choses.
Depuis combien de temps vous participez à ce jardin solidaire?
Au jardin solidaire, moi, ici, 12 ans.
Deux ans, avec ces réunions de groupe les mercredis et samedis. Mais pas seulement, oui, vous participez, oui, aussi la semaine.
Oui, oui, je voulais aller ici, c'est mardi après samedi, pour arroser, pour planter. Ici, beaucoup, beaucoup de tomates, oui. Moi, pas acheter des légumes, rien. Beaucoup merci, Secours catholique, parce que je suis avec mon fils, allé à Secours catholique, 3 jours à l'école. C'est mardi, jeudi à vendredi. Mon professeur Geneviève et après Michel, c'est très bien professeur. Grâce à mon professeur, maintenant je un peu parle France language.
Merci à vous. Une belle découverte ici à l'avenue de Sainte-Menou à Châlons-Champagne, ce jardin solidaire.
C'est ce qu'on vit, c'est ce qui rend les gens heureux, quoi. Nous, notre satisfaction, c'est de voir les gens avec un sourire, waouh. Et vous l'avez remarqué, quoi.
Oui, hein, tout à fait.
Voilà, et ils sont heureux de communiquer aussi avec vous. Les gens ressentent des capacités en eux pour aller de l'avant, quoi. Vers l'avant, malgré leurs difficultés, qui sont grandes au quotidien.
Merci Denis Renaud, délégué diocésain de la pastorale des migrants au diocèse de Chalon, de nous avoir fait découvrir ce très beau jardin solidaire, ce jardin de la fraternité. Longue vie à ce jardin solidaire et à très bientôt sur RCF.
Merci beaucoup Christopher.
Un reportage de Christopher Fausten pour RCF, Cœur de Champagne, le jardin de la fraternité est à retrouver en images sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne, Instagram, évidemment, Facebook, X, anciennement Twitter. Merci pour votre fidélité, merci à nos stagiaires, Médina d'être restée avec nous jusqu'à 19h.
Merci Alexis.
Merci Inès également.
Merci Alexis.
Merci à Fabrice Gironet qui était à la mise en onde ce soir. Demain les filles, vous ne serez pas avec nous et moi non plus, on laissera Jean-Pierre Benoît aux manettes pour une émission spéciale fin de vie avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, avec des soignants également. Il y aura notamment le docteur Jérôme Sainton qui sera en plateau ou encore Sandrine Leroy qui est infirmière. Tout cela, ça sera donc demain dans le magazine régional à partir de 18h10. Émission spéciale pendant une cinquantaine de minutes. Tout de suite, c'est l'information nationale qui prend le relais. Très bonne soirée en compagnie de RCF.